Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Ce mardi 17 janvier, nous avons pu vivre justement un événement au CNFPT portant sur le récit des imaginaires des labs. Deux laboratoires sont venus nous faire partager leur imaginaire. Le laboratoire, donc le lab Grand Est, avec Pauline Carret, responsable du lab Grand Est. Bonjour. Estelle Markovic, chef de projet innovation et usage numérique à la DIMAP, donc région Grand Est. Et puis, le lab de Marseille était représenté par ses deux copilotes, Camille Darmin et Gilles Delalois. C'est Ophélie Hugo qui nous a accueillis donc au laboratoire de l'innovation et de l'apprentissage du CNFPT. Et donc, qu'est-ce qui a présidé, voilà, selon vous, à cet événement consacré au récit des imaginaires de l'innovation et qui ont notamment été illustrés par Jérôme Aseka Leclerc. Ophélie.
Merci Bernard pour cette belle question. Alors, moi j'ai envie de dire, il y a plusieurs éléments. Déjà, le récit des labs, rencontre de l'imaginaire d'innovation, c'est une envie pour le service innovation publique du CNFPT d'ouvrir aussi son laboratoire aux agents publics territoriaux. Donc, c'est vraiment cette idée de lieu de rencontre, espace d'exploration, un moment où on peut échanger, on peut discuter et surtout d'être dans un nouvel imaginaire ensemble. Et quand on est dans un nouvel imaginaire ensemble, c'est créer du vivant, à mon sens, dans un laboratoire. Et vraiment, l'envie du service innovation publique et toute l'équipe, c'est justement s'inspirer du vivant, un peu comme nouvelle culture, comme nouvelle trajectoire de l'imaginaire. Au-delà de tout ça, on vit dans un contexte que nous connaissons, que j'aurais envie d'appeler un monde en transition, effectivement, au pluriel. Et quand on est dans un monde en transition, ça veut dire qu'on est dans l'acceptation de l'incertitude. On ne sait pas. Et quoi de mieux que finalement l'intelligence collective, la vision des uns et des autres, tout simplement dans un laboratoire, autour d'une table, pour créer une nouvelle trajectoire. J'aurais même envie de parler de nouvel horizon aussi, puisqu'on peut avoir plusieurs horizons au final. Donc, un nouvel imaginaire et embarquer effectivement vers un nouvel imaginaire. On voit bien aussi en ce moment dans les questions d'innovation publique et de transformation que justement les deux concepts en ce moment s'entrechoquent. Il y a cette idée, est-ce qu'on fait de l'innovation ? Est-ce qu'on fait de la transformation d'un côté ? Est-ce qu'on transforme d'abord et ensuite on innove ? On voit bien que ce sont deux notions, deux matières, deux idées qui en ce moment en fait s'entremêlent. Et donc on trouve intéressant à un moment donné de les mettre en rapport, de les mettre en lien, de les mettre en résonance, donc à travers tout simplement des acteurs des territoires tels que les laboratoires. Et quoi de mieux que le Lab Est et le Lab de Marseille pour raconter aussi ce truchement finalement, ce lien en fait entre innovation et transformation. Et quoi de mieux aussi que la rencontre, puisque c'est ça aussi, Récit des Labs, c'est bien la rencontre de l'imaginaire, de l'innovation, et donc c'est ce moment un peu en présentiel où on va remettre l'humain au cœur, et voilà, c'est ce qui nous a habité finalement dans la création tout simplement de cet événement, donc Récit des Labs, rencontre de l'imaginaire, de l'innovation.
Merci à vous Ophélie. C'est vrai que nous avons souhaité, avec un consensus de tous les intervenants, de plutôt faire vivre une expérience aux participants plutôt que de faire une conférence avec des exposés. Et on a trouvé effectivement que ça pouvait prêter à être plus au cœur du vivant, comme vous nous le rappeliez si justement. Alors on va vous interpeller maintenant, vous, acteurs des laboratoires dans les territoires. Pauline Carret, en ce qui vous concerne, que retenez-vous des échanges portant sur cette question de l'imaginaire de l'innovation ? Que nous avons questionné à partir des récits de vos deux labs respectifs, donc Marseille et Grand Est, prolongés par la construction d'objets symboliques que nous avons proposés donc aux participants de créer en réponse à la question, selon vous, quelle est la philosophie des labs ? Qu'est-ce qui a contribué peut-être à votre étonnement autour de cet événement ?
Alors, dans ce travail collaboratif avec les participants, on a été beaucoup inspiré par l'univers de la mer, par finalement ce que la mer symbolise, le fait de partir, de quitter une zone connue, un territoire connu, et de larguer les amarres, d'aller à l'aventure, de peut-être avoir des courants ou des vents contraires, d'avoir une destination prédéfinie, et puis finalement se laisser au gré du chemin, guider vers une nouvelle destination qui conviendra mieux. Donc cet univers de la mer, moi, m'a marqué parce qu'on sentait vraiment un consensus avec des restitutions différentes, mais toujours prendre ce risque de partir vers l'inconnu.
Oui, pour compléter les propos de Pauline, moi, ce qui m'a marqué, c'est finalement la personnification de ce qu'on peut rencontrer et vivre au sein d'Alab. Donc on a toute une série finalement d'acteurs ou d'objets qui viennent ponctuer un parcours qu'on voit non linéaire, hein, vraiment ça chemine, c'est pas facile, ça évolue. Et c'est vraiment la vie d'un lab, c'est ça. À un moment donné, on avait un intervenant qui a dit, mais finalement c'est pas la destination l'important, c'est le chemin, comment on y va, qu'est-ce qu'on construit petit à petit, comment on embarque. Voilà, ça m'a marqué, c'était vraiment une image à travers le voyage, à travers le fait de pouvoir s'échapper, de créer un espace comme ça qui permet de s'évader. C'était assez parlant et les imaginaires, en fait, ont vraiment fonctionné dans les récits pour retracer tous ces petits événements, finalement, qui viennent ponctuer l'innovation, la transformation, puisque là, on se retrouvait sur les deux sujets, finalement. Ça venait incarner ces récits.
On a bien vu que les participants ont véritablement souligné l'enjeu de percevoir l'innovation ou la transformation comme un processus, finalement. Et donc, c'est ça qui était intéressant dans cette mise en perspective, ce départ justement vers un ailleurs. Gilles Delaloy, comment vous avez perçu ces productions qui ont été donc réalisées par ces participants? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça?
J'ai particulièrement apprécié justement le fait que quand avec les copines du Labest, on a chacun réfléchi de notre côté à un récit, comment est-ce qu'on allait mettre en récit le lab, le principe de lab, la philosophie de lab, le concept de lab. On a pensé à des choses qui étaient très terriennes, finalement. Voilà, les abeilles, le miel d'un côté, de l'autre côté, le courant d'air, donc des choses qui étaient vraiment plutôt installées sur Terre, et que les deux équipes qui ont travaillé sur l'instant, qui ont reçu ces récits-là, qui ont accueilli ces deux récits et qui ont dû se les approprier et restituer un petit peu leur vision de la philosophie des labs, ils sont partis les deux sur quelque chose qui est très vraiment complètement le grand large, la mer, la navigation, hors de tout chemin tracé, toute route connue. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça, c'est un résumé assez intéressant, je trouve, de ce qu'est l'innovation, la transformation, c'est-à-dire la possibilité ou la capacité qu'on a de raconter ces histoires-là en utilisant finalement des allégories, des imaginaires très très différents, mais qui finalement se retrouvent sur l'essentiel, sur finalement de quoi on a besoin et par où on passe pour permettre l'innovation, pour permettre la transformation. Donc bon, je vais pas revenir sur ce que disaient les copines, mais quelle que soit la façon dont on a décidé de le raconter, on s'est retrouvés quand même tous voilà, sur nos bases et sur nos piliers. On reparle d'impulsion, on parle d'équipe, de collectif, on parle de aller vers, mais finalement d'explorer. Tiens, on était parti pour aller vers une île, et puis on se retrouve finalement vers une autre île, ou aucune île, mais voilà, derrière des sirènes ou derrière. Voilà. Finalement, c'est, je reviens sur le cheminement. Par où passe-t-on plutôt que où va-t-on? Voilà. Après, dernier point, moi qui me paraît hyper intéressant, le recours au récit, le recours à l'imaginaire. On est dans un monde, notamment quand on parle d'innovation, on est très influencé par le monde des startups, donc le règne du pitch, l'ultra synthèse. Et là, on prend des détours pour raconter quelque chose de plus profond, de plus subtil. Voilà, on se défait un petit peu de cette figure imposée qu'est le pitch et qu'est l'ultra synthèse. Et finalement, ça nous permet de rentrer dans la complexité, c'est ce qu'on se disait, la complexité des parcours, des démarches d'innovation, de transformation. On est toujours sur des injonctions, on est toujours sur voilà, des sujets qui sont relativement complexes à traiter. Et c'est vrai que se détacher de l'ultra-synthèse et de pouvoir un petit peu donner libre cours à l'imaginaire, c'est... voilà, moi, je retiens ça aujourd'hui et sur une idée que m'a donnée Ophélie. Un objet à réutiliser peut-être pour raconter le lab en interne aussi.
Et je tiens vivement à vous remercier pour justement aussi vos récits qui ont été en quelque sorte des accélérateurs dans la mobilisation de l'imaginaire des participants, et ils ont eu des choses à nous dire qu'ils ne nous auraient peut-être pas dit si on était resté dans une logique un petit peu classique justement de la conférence. Et donc voilà ce que je soulignais en synthèse, c'était que pour des territoriaux, ils nous ont parlé de déterritorialisation, et ça, c'était intéressant justement, cette ouverture sur le large que vous avez les uns et les autres souligné à l'instant. Jérôme Algeca Leclerc,
alors vous
j'étais illustrateur. Donc, vous avez eu un autre rapport à la situation, j'ai envie de dire. Vous étiez, vous, déjà dans cette perspective de mobiliser votre propre imaginaire. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Ben, vous avez contribué à vivre aussi et à faire vivre à travers votre propre production.
Alors, comment répondre à cette question? Moi, ce qui m'a attiré sur quand la proposition a été faite de votre part de venir, ça m'a motivé parce que justement, c'était questionner comment ça émerge. En fait, d'aller très très profond au fond de soi pour trouver les images, les produire et construire un récit avec. C'est le sens de mon intervention en facilitation graphique, c'est d'être à l'écoute et d'être ouvert à tous les possibles qui peuvent émerger et de rien. Même si mon imaginaire fonctionne à ce moment-là, de ne pas fermer les portes et les fenêtres et de faire rentrer toutes ces propositions qui surgissent et de construire avec. Et donc, c'est une gymnastique dans l'esprit d'associer les visuels avec les mots et qu'est-ce que ça représente. Les groupes d'aujourd'hui ont été, je trouve, très facilitants puisque très, très rapidement, les écoutant, la métaphore du voyage, du voilier, de l'équipe, ça a germé tout de suite. Ça a germé tout de suite et là, on avait un récit. Donc, il y a eu Christophe Colomb qui est apparu, la caravelle, les continents, puis tous ces mots qui s'agrègent autour de cette image comme découvrir d'autres coutumes et les ramener chez soi. Voilà, le mouvement était lancé et c'était une expérience super de suivre cette vague, poser les idées et d'être dans le récit. Et c'est difficile à répondre hein, parce que... Mais voilà, pour moi, ce que vous m'avez proposé, et cette expérience-là, pendant 2 heures très intensives d'être à l'écoute et d'être dans la construction du récit simultané, c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse et ce que je recherche dans les pratiques d'intelligence collective. Donc, merci.
Merci à vous. Et on pourra aussi admirer vos propres productions, propres illustrations hein, qui ont allié en même temps le beau et aussi quelque chose qui a à voir avec justement un regard sur ce qui a pu être dit par ces deux collectifs qui étaient vraiment très productifs. Ophélie, vous qui étiez en quelque sorte l'organisatrice qui avait proposé cet événement, qu'est-ce que vous avez retenu ou est-ce que vous avez été surpris par ce qui a été produit? Qu'est-ce qui vous semble essentiel par rapport au regard que vous aviez aussi d'une experte dans le champ de l'innovation publique?
Alors, ce qui est bien quand on est dans l'innovation, c'est qu'on ne s'attend à rien. Et donc, c'est se laisser un petit peu aussi surprendre par ce qui se produit aussi dans la salle. Moi, j'ai envie de parler de magie et d'émerveillement et de joie. Je pense que c'est ces mots-là qu'il faut aussi retenir parce que c'est une question aussi d'ambiance. Hein. On a tout de suite vu que le groupe s'est mis en mouvement, s'est levé... a sorti la créativité de sa poche, de son sac, est parti voilà, à la recherche de photos. Et donc, moi, c'est cette émulsion plus que je vais retenir, parce qu'effectivement, la question d'exploration, elle était là, sur cette question d'imaginaire, mais c'est cette attention de vouloir agir. Et ce qu'on voit bien, finalement, dans cette salle, c'est le pouvoir d'agir, tout simplement. Des agents territoriaux qui ont envie d'innover et qui ont envie de transformer. Et puis, j'ai aussi vu un petit peu d'alchimie, quelque part. Pourquoi? Parce que on voit bien dans les récits, alors on a l'air, on a donc cet état d'esprit, hein, l'air c'est out of box, hein, c'est effectivement cette créativité. On voit l'eau, donc l'eau c'est je navigue, mais c'est aussi l'eau qui nettoie, l'eau qui à un moment donné rend fluide, tout simplement, les organisations et l'ensemble des projets. On voit la terre pour l'ancrage, pour se stabiliser aussi dans son organisation. J'ai pas forcément vu d'ailleurs de feu, c'est-à-dire la question de l'étincelle, de la créativité, mais peut-être que justement cette étincelle, elle arrive après, une fois qu'on a mis en ordre de marche finalement ces trois éléments, et on voit bien qu'on est du coup au début, hein, comme dans toute alchimie, d'une œuvre commune.
Et peut-être le cap qui était visé par l'un des collectifs à travers la Martinique, qui peut rappeler le soleil, et puis il y avait aussi un guide, qui est le phare, hein, qui était aussi porteur de lumière, et on peut penser effectivement que ça ramène à la dimension du feu. Alors, justement pour vous, en quoi l'imaginaire que portent les acteurs de l'innovation publique, hein, que vous êtes, est en rupture avec l'imaginaire que portent les organisations et tout particulièrement les collectivités et les acteurs des territoires? En quoi, c'est pas si simple que ça pour vous? En quoi il y a aussi disruption, comme on dit? En quoi il y a rupture? On a parlé de naufrage tout à l'heure. Donc, en quoi, effectivement, pour vous, eh bien, l'innovation publique se retrouvent confrontés à des fixités. Hein, c'est aussi ça qu'on a évoqué dans le cadre de nos échanges. Comment vous percevez-vous ce décalage, en quelque sorte, entre l'imaginaire que vous portez, comporté tout à l'heure l'ensemble des participants, et celui que vous connaissez dans vos organisations, qui sont néanmoins bureaucratiques, technocratiques, très bien organisées, mais pas forcément toujours ouvertes à l'innovation. Donc, comment vous percevez-vous toutes ces questions-là de votre côté, à l'intérieur même des collectivités?
Oui, peut-être commencer ici, mais ce qui me paraît, ce que je pourrais en dire, c'est que le contexte nous montre que des difficultés sur la santé publique, des difficultés sur un certain nombre d'administrations publiques, une image qui est quand même assez dégradée, et on s'en rend compte au fil des enquêtes régulièrement. Donc voilà, tous les voyants nous indiquent que on a un système qui est un petit peu dysfonctionnel quand même. Voilà, donc certains plus que d'autres, mais en réalité, on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement sur la bonne pente. Et aussi, toute une logique qu'on a, et c'est, je pense, trop facilement assimilée dans les différentes fonctions publiques, finalement, le chiffre, le pilotage, la rentabilité, voilà, et donc un certain nombre de logique vraiment de quelle est la priorité, quel est le service public qu'on veut produire, qui n'étaient pas forcément les premières questions qu'on se posait. Et donc, je pense, une nécessité à un moment donné de reposer un regard ou de poser un regard neuf sur qu'est-ce que c'est que la fonction publique, qu'est-ce que c'est que produire de l'action publique, quels sont les critères qui font qu'on va évaluer cette action publique. Et donc je pense que tout nous amène à nous re-questionner un petit peu vraiment le fond et le sens de la fonction publique et de l'action publique. Et c'est là que je pense, ma conviction est là, qu'à un moment donné, si on doit porter un regard neuf là-dessus, si on doit re-questionner le fond, voilà, je pense directement innovation quand je me dis ces deux choses-là.
Vous êtes au cœur même de la cité phocéenne, comme on dit, hein, qui est une cité qui est ouverte sur le soleil, mais aussi sur la mer. Voilà cette ville qui est pleine de surprises, qui est pleine d'élan, d'allant, qui va droit au but, hein, comme le dit très bien la devise du club de Marseille. Est-ce que vous sentez une résonance avec vous, votre culture, vos valeurs de l'innovation, avec cette ville qui est bouillonnante quelque part?
Dont on a tendance à dire qu'on l'aime ou qu'on la déteste. Voilà. Donc c'est une ville qui ne laisse pas indifférent, voilà, qui a une culture forte, qui a une histoire forte, qui a une personnalité. Voilà, c'est une ville du Sud, hein. C'est une ville méditerranéenne, elle est un peu exubérante parfois. C'est aussi une ville d'extrême, c'est une ville pauvre, c'est une ville qui a été très riche, c'est une ville qui a une histoire extrêmement riche, mais c'est une ville dans laquelle il y a vraiment des écarts de niveau de vie qui sont très importants. Il y a certains quartiers à Marseille qui sont les quartiers les plus pauvres d'Europe, et donc c'est cette réalité-là qu'on est obligé d'intégrer, d'assumer, d'assimiler et d'intégrer quand on produit des politiques publiques. Et donc oui, on est vraiment dans cette logique de comment est-ce qu'on arrive à finalement répondre, ce qui devrait être le sens qu'on recherche tous, aux plus nécessiteux, à ceux qui ont le plus besoin, à ceux qui sont le plus éloignés d'eux, la société. Donc voilà, on a besoin à un moment donné de repenser pour des populations spécifiques, des objets, des moyens, des idées, des chemins un petit peu différents pour finalement arriver à répondre à leurs besoins, à leurs nécessités, effectivement.
Et puis il y a un vent qui pousse. Un courant d'air très fort.
Parfois vers la mer, souvent, avec le mistral, parfois dans l'autre sens également.
Ah oui, le vent vient des terres en général, d'accord. Alors concernant la région Grand Est, Estelle ou Pauline, voilà, est-ce que vous ressentez également, vous, un décalage entre l'imaginaire qui est le vôtre en tant qu'acteur de l'innovation et puis l'imaginaire qui est porté par votre collectivité, les partenaires, les acteurs justement du territoire?
Oui, tout à fait. On est parti aussi, ce qui nous a interpellés, c'est l'un des groupes qui parlait du naufrage. En fait, on est assez en réaction finalement à un cas qui se passe mal, qui a une issue défavorable. Et c'est un peu la première approche en fait quand on vient taper à la porte d'un lab, quoi. Là, c'est la cata, qu'est-ce qu'on fait? L'ambition aussi, c'est, et le rôle de l'imaginaire est assez probant en fait, hein, dans tout ce qu'on a vécu, c'est qu'on revient en fait à l'essence. C'est ce qui permet aussi de faire un focus là-dessus. On aurait très bien pu partir raconter nos labs, nos actions concrètes, etc., nos méthodes, ce qui avait finalement assez peu d'intérêt. Là, à travers en fait cette forme un peu presque poétique, hein, finalement, des récits, on revient à l'essence Et c'est ce qui permet aussi pour nous d'être peut-être en rupture. Alors, je ne sais pas si le mot doit être aussi fort, mais en tout cas, de se dire finalement, on donne aussi un espace qui permet d'être moins en réaction, mais aussi de se laisser en fait un temps de recul sur ses pratiques, sur la vie politique, sur les ambitions d'une collectivité, et de se dire comment je peux mieux répondre, comment je peux anticiper, comment je peux aller au cœur des problèmes, en fait, au cœur des besoins du quotidien, que ce soit en interne ou vers les usagers, en tout cas les bénéficiaires. Et je trouve que c'est aussi ces espaces-là qui sont importants de créer. Et c'est peut-être là où doit être la rupture, en fait, finalement, ce temps de prise de recul. On s'autorise à s'arrêter à un moment donné et à se dire comment on peut fonctionner différemment, comment on peut améliorer, comment on peut décloisonner les choses. En tout cas, voilà, ces temps de on ne répond plus à un naufrage, mais le temps de respiration. Quoi.
On se donne de l'espace et du temps, justement, pour ne pas être dans la réaction, mais d'être justement dans quelque chose qui se construit. Gilles, vous vouliez rebondir avec...
Exactement ça, c'est-à-dire on a peut-être les premiers pas d'un lab qui viennent se construire où on a besoin de prouver l'utilité qu'on a. Et donc forcément, on va essayer de répondre à des besoins flagrants, les plus flagrants possibles. Plus ça se voit et plus on arrive à faire quelque chose et plus on donne des preuves de notre utilité. Mais finalement, on est relativement en réaction, comme tu le disais, Estelle. Hein, on est vraiment dans un mode réactif. Et comment est-ce qu'on arrive dans un deuxième temps à commencer à regarder quel service public je veux aider à construire et comment maintenant on se met en marche, on s'organise pour le lab avec ses partenaires pour commencer à construire un service public différemment, avec d'autres logiques et compagnie.
Cela me fait penser à Roland Gori, un homme de Marseille, psychanalyste, prof émérite, à Marseille, qui justement questionne bien les environnements et appuie justement très fort sur l'idée qu'il faut, au-delà de l'utilité, aller à l'essentiel, aller à ce qui est l'ordre de l'essence aussi. Hein, et donc justement se donner cet objectif-là, en tous les cas, de ne pas oublier justement d'être au-delà de la seule réaction par rapport à des demandes. Ophélie, vous vouliez développer.
Oui, et au-delà d'être en réaction, j'ai l'impression aussi que c'est aussi renoncer à ses certitudes. Face à une organisation qui est pleine de certitudes, face aussi à des personnes qui ont pleines de certitudes. Et donc les labs, c'est aussi des espaces pour renoncer à ça et d'être aussi dans une posture d'humilité et se dire qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas penser effectivement à la place d'eux. Donc c'est aussi des espaces de renoncement et donc c'est aussi un acte fort de transformation individuelle, mais véritablement pour le collectif.
Oui, c'est un acte de résistance aussi, hein, quelque part, hein, résister aussi contre soi-même et contre ses certitudes. Jérôme, vous qui avez la possibilité aussi par votre métier, votre expérience au sein d'institutions, comment vous voyez les choses, vous, entre les personnes qui sont acteurs de l'innovation, quelque chose qui est en décalage, en disruption, en rupture avec les environnements dans lesquels ils sont amenés à agir.
Ce que j'ai pu observer de mon expérience, c'est que on rencontre des personnes qui sont à différents stades. Il y a celles pour lesquelles c'est la première fois et on offre des imaginaires très puissants, surtout en pratiquant la facilitation graphique. On rencontre aussi des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience en innovation. Et quand j'échange avec celles-ci, on s'en amuse, mais c'est de trouver, c'est cette image qui est ressortie d'ailleurs, c'est l'innovation passe par des trous de souris. Et parce que nous nous sommes rendus compte que, à force de se rencontrer, on est très nombreux. Il y a des liens qui se tissent, il y a des passerelles, c'est aussi différentes administrations ou différentes collectivités qui se chevauchent, des partenariats qui se nouent. Et l'image du trou de souris, c'est que nous nous sommes rendus compte que il y a des failles dans les établissements et c'est par là que ça passe. Et c'est aussi de se faire, on le disait comme ça, de se faire plein d'amis. Voilà ce que la question m'inspire et l'imaginaire, les archétypes sont, maintenant qu'on en parle, sont hyper importants. D'aller, de retourner à la source et en soi-même. Et c'est super dur parce que on pourrait se contenter de sa boîte à outils habituelle et même en dessin. Alors que l'intérêt de la posture, c'est vraiment, on parlait de résistance, c'est de résister à ça et de s'ouvrir le plus possible à l'écoute et de, et de s'emparer des archétypes parce qu'ils sont là. C'est vraiment un moteur puissant.
Et moi, ce que j'entends, hein, c'est cette question d'accepter aussi sa faillibilité, sa vulnérabilité. Ça résonne avec ce que disait Ophélie, de ne pas vouloir rester sur ses fixités et ses certitudes organisationnelles notamment. Hein. Mais voilà, accepter justement aussi les échecs, les failles, les petits trous de souris sur lesquels on va pouvoir s'incruster pour mettre effectivement du nouveau en émergence. Gilles, vous vouliez réagir par rapport à ça.
Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais parce que ce qui est ressorti dans les deux groupes, on produit un petit peu sur justement cette philosophie de l'innovation, on a l'app d'innovation ou de Transfo, c'est le collectif. Donc je pense qu'on est tous d'accord ici, ceux qui pratiquent l'inno au quotidien, pour dire on n'innove pas tout seul. Ça peut arriver, hein, on a certainement des cas, mais on innove difficilement tout seul. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire ces collectifs qui arrivent à produire ensemble, à porter un regard neuf, nouveau ensemble sur le quotidien, sur ce qu'on voit tous les jours, et de dire tiens, et si on le regardait comme ça, on pourrait imaginer ça. Et donc ça, c'est vrai à l'intérieur de nos organisations. Et je pense que les labs ont cette vocation aussi en interne à essayer de fédérer, mobiliser, aller chercher tous les, je sais plus comment on peut les appeler, mais les rebelles constructifs et tous les noms d'oiseaux qu'on pourra leur donner, mais les déviants positifs aussi, oui. Donc on a un petit peu cet objectif-là et finalement ces prérogatives-là en interne. Mais on a l'événement comme celui d'aujourd'hui, il nous permet aussi. Je pense que on n'aurait pas rencontré Marseille, n'aurait pas rencontré le Labest, Gilles et Camille n'auraient pas rencontré Pauline et Estelle. Et on s'est dit tiens, on a voilà le fait de travailler ensemble sur les imaginaires, sur des récits. On se rend compte qu'on est très très proche sur le fondement de finalement de nos missions, sur l'essence, hein, pour revenir dessus. Et donc on s'est dit ça a peut-être du sens sur tel sujet de se reparler ou tiens on aimerait bien aller voir comment vous faites et ce que vous faites, on aimerait bien vous inviter. Voilà, je pense que tout ce que vous organisez aussi, le CNFPT, ça a aussi cet objet-là, c'est-à-dire à densifier, à rendre plus solide encore ce maillage-là. C'est le boulot que fait la DITP aussi avec le réseau qu'elle anime, c'est le boulot qu'on fait avec Lab4Lab autour du lab de la région sud en région PACA. Donc voilà, tout ça aide justement à donner corps à toute cette logique de, voilà, ensemble, on imagine, on voit, on arrive à créer justement ces nouveaux imaginaires qui vont nous mettre sur de nouvelles logiques de production de contenu.
Oui, donc vous venez de nous faire partager quelques conditions d'émergence justement de ce nouvel imaginaire au sein des pratiques auprès justement des laboratoires d'innovation ou de transformation. Donc cet enjeu de vous mettre aussi en communauté entre labs, le CNPT peut avoir un rôle par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voyez comme condition d'émergence de ces nouveaux imaginaires portés par ces nouvelles pratiques au sein même de vos collectivités? Quelles sont les conditions pour que ça puisse vraiment essaimer quelque part ce que vous cherchez à développer? Pauline ?
Moi, je dirais une condition principale, c'est d'être prêt à se mettre en mouvement. Alors, ça fait écho à des choses qu'on a déjà évoquées aujourd'hui, hein, mais si on reste dans des habitudes, dans le fait que ça fonctionne comme ça, qu'on n'a pas le temps de changer, on n'y arrivera pas. Il faut être prêt à prendre ce risque, à partir, à ouvrir tous les possibles, à se dire peut-être on pense aller dans telle direction, puis finalement, au cœur de la réflexion, on se rend compte que c'est pas ça, qu'il faut prendre une autre direction. Mais il faut cette ouverture, il faut lâcher prise sur ce qu'on connaît, sur des manières de faire habituelles. Ça, c'est une première condition. Et je pense à une deuxième condition qui est celle quand même, quand on met en place une démarche innovante, d'avoir un certain quand même, alors c'est pas un cadrage, mais d'avoir quand même un certain soutien de la hiérarchie, de l'organisation, un soutien au niveau national aussi, c'est apprécié de sentir qu'au niveau national, on dit mais l'innovation, c'est important dans les organisations, il faut développer des labs, il faut développer des labs que ce soit dans les collectivités, dans les services de l'État, parce que c'est une solution, on en a besoin. Et donc, ça donne du crédit à cette démarche qui peut être un peu déstabilisante, qui peut surprendre, qui peut sembler moins sérieuse que des formats plus classiques de gestion de projet, et qui pourtant fonctionne. Donc voilà, on a besoin aussi de ce soutien et de cette reconnaissance de notre travail.
Et voilà, il se trouve que ce soit votre DGS Nicolas Pernaud ou que ce soit aussi Aude Fournier à Marseille, ce sont des personnes qui sont des références dans le champ du management pour porter, j'ai envie de dire, des nouvelles approches en matière justement de développement de politique publique. Donc c'est important ce que vous dites sur avoir du soutien aussi par la hiérarchie au sein de votre institution. Estelle.
Si je peux compléter aussi, Pauline, c'est Ce qui est aussi un préalable, c'est finalement un cadre de confiance. Voilà, permettre aussi d'avoir un climat qui s'autorise à être curieux, à aller explorer des choses qu'on ne connaît pas, à les rencontrer, à s'ouvrir vers l'extérieur, que ce soit, alors déjà l'extérieur, ça peut être juste un autre service de son organisation, et d'aller rencontrer d'autres régions. Effectivement, ben voilà, on échange avec Marseille et on a des sujets en commun. Donc, échanger sur nos pratiques, faire se rencontrer des collègues pour discuter, aller à la rencontre aussi des bénéficiaires de nos services publics. Mine de rien, c'est quand même un cap à passer. Enfin, on se confronte aussi, on concrétise l'effort au quotidien. Hein. On vient se confronter à est-ce que ça répond, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est... Et on a vraiment ce cadre à instaurer pour s'autoriser à franchir en fait ces barrières, des fois qu'on s'impose nous-mêmes. Hein, il n'y a pas de barrières hiérarchiques. Hein, c'est aussi soi-même finalement instaurer ce cadre qui permet de le faire sereinement avec un accompagnement. Alors les labs sont là aussi pour ça. Mais voilà, franchir en fait la porte des labs pour se dire je m'autorise à être curieux, à aller vers quelque chose que je ne connais pas, qui peut me faire avancer à un moment donné. Peut-être aussi sentir, ça y est, là, je suis prêt, en fait. Enfin, là, je me suis déchargée de plein de choses et je suis prêt à ouvrir la porte d'un lab et à y aller en conscience. Donc, c'est tout ce travail aussi qu'on a à faire, hein, nous, côté, dans nos organisations, à instaurer ce climat, aussi à travers la communication d'actions qui sont réalisées, qui ont été soutenues par nos directions et qui, sur le terrain, sont opérationnelles et satisfaisantes. Mais en tout cas, voilà, ce climat est aussi à instaurer et pour rendre aussi les choses possibles. Et finalement, je reviens sur la notion de naufrage, mais voilà, où on soit aussi dans un lieu où la porte puisse être ouverte à tout moment.
Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est finalement, il faut que les collectivités, notamment, soient des espaces capacitants pour faire émerger du nouveau, des prises d'initiatives. Mais on voit bien comment le lab lui-même est un espace capacitant pour justement être ce port dans lequel on peut se mettre à l'abri pour prendre de la distance, pour réfléchir, pour transformer nos ressources et nos dispositions en pouvoir d'agir ou pouvoir d'apprendre. Et on voit bien en quoi le laboratoire, qu'il soit d'innovation ou transformation, contribue à une acculturation aussi d'une autre culture dans les collectivités qui favorise en quelque sorte cette transformation des salariés et des acteurs. Comment ça se passe à Marseille, Gilles ?
Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Bernard, qui est le pouvoir d'apprendre. Je pense que c'est une dimension qui, pour moi, est fondamentale dans ce que fait un lab. C'est-à-dire le lab, encore une fois, si on reprend les éléments qui sont fondamentaux sur lesquels s'appuie un lab, on a parlé de sécurité. À un moment donné, il faut qu'on ait un appui, il faut qu'on ait cette sécurité de pouvoir faire. Ça, c'est évident. Et il y a aussi faire rentrer dans la logique de l'administration publique la notion d'expérimentation, voilà, qui pour moi est fondamentale. Et je pense qu'elle n'est pas aussi largement diffusée que ça. Et finalement, cette notion de dire, on va mener une expérimentation, ça ne va pas fonctionner pour tout le monde, mais on va apprendre des choses. Et on sera plus malin après. Ce qui nous permettra après d'élargir le domaine de l'expérimentation et peut-être d'apprendre encore plus et d'être encore plus malin, et là, vraiment de pouvoir proposer, in fine, quelque chose de qualité pour le plus grand nombre. Voilà. Et encore une fois, dans cette logique de « il faut qu'on fasse des choses qui, du premier coup, marchent pour tous voilà, », je pense qu'on est dans un monde qui, je ne sais pas, moi je suis convaincu que non, mais que je ne sais pas s'il nous permet de continuer à penser qu'on va faire à chaque fois du premier coup des trucs qui fonctionnent pour tous. Donc, arriver à faire rentrer cette logique-là, et finalement, qu'il y ait une logique qui s'appuie sur l'apprentissage. J'apprends, je comprends. Plus j'apprends, mieux je comprends. Plus je capitalise sur mes apprentissages et plus j'arrive à produire des choses de qualité pertinente. Voilà, et ça, je pense que c'est un fondamental aussi sur lequel on doit s'appuyer, qu'on doit diffuser largement. Et le lab a vraiment, pour moi, c'est l'objet qui ouvre ces espaces, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, ouvrir des espaces finalement d'expérimentation, d'apprentissage, de compréhension. Voilà.
Avec le droit à l'erreur et ce fameux courage qu'évoque Cynthia Fleury en disant que justement, c'est aussi être en capacité de renoncer à justement faire en sorte que on s'arrête devant un possible échec et donc c'est aussi ça, mais il faut une capacité justement de confiance qui nous est accordée pour pouvoir justement s'engager sans savoir où l'on va. Ophélie, vous qui êtes justement responsable maintenant du laboratoire d'innovation et d'apprentissage du CNAPT, comment vous voyez les choses de votre côté ?
Moi, j'ai un message que j'aurais envie de donner aux agents territoriaux qui auraient envie de s'engager dans la dynamique d'innovation ou de transformation, c'est oser. Voilà, d'être dans cette autodétermination, oser, propre, oser, en deux mots, hein. P-R-O-P-O-S-E-R, propre, oser, voilà. Au pire, de toute façon, ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Effectivement, on est dans ce levier d'apprentissage et dans cette trajectoire aussi d'apprendre, de tomber, de se relever. Et de toute façon, quand on se plante, c'est comme si on plantait une graine finalement. Donc, il y a quelque chose qui émergera de toute façon après coup. Et puis, je vais vous dire ce que m'a dit Camille Darmin, donc copilote du lab de Marseille tout à l'heure et qui m'a susurré ça à l'oreille tout à l'heure. C'est de toute façon, je préfère demander pardon que demander l'autorisation. Et donc, on voit bien qu'on est dans ce système, en tout cas, de pas de côté, d'oser faire les choses aussi. Et encore une fois, au pire, ça marche.
Jérôme, vous verriez quelque chose qui pourrait symboliser avec votre imaginaire d'illustrateur, quelque chose qui pourrait donner à voir ces conditions d'émergence de ces nouveaux imaginaires dans les organisations? Ce serait quoi ce pas de côté pour vous à faire?
C'est vraiment ça, c'est d'oser, s'autoriser, de préférer, j'aime beaucoup cette citation, là, mieux vaut demander pardon que de demander l'autorisation, alors en image, là, pour le dire, le parler. Voilà, j'ai cette espèce de diable sauteur là qui surgit de sa boîte et qui se fout complètement du jugement et de ce qu'on va dire de lui et il saute. Voilà, c'est ce qui me vient spontanément.
Alors peut-être pour... oui,
je rebondis sur la phrase magique de Camille, je partage complètement et je pense qu'on essaie de l'incarner le plus possible à Marseille et au lab surtout. Ce qui nous expose à en prendre une de temps en temps, naturellement, mais ça, voilà, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire entrer dans cette logique dans laquelle on n'est pas à chaque fois obligé de repasser par le haut du haut pour faire quoi que ce soit et pour faire le premier pas. Voilà, on essaie d'incarner ça et forcément, on s'expose, mais voilà, c'est assumé et il faut avoir aussi, je pense, la solidité de pouvoir se permettre ça.
J'entends derrière tout ça aussi cette question de Norbert Alter autour de l'innovation ordinaire. Hein. C'est aussi accepter que l'innovation publique, ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'innovation ordinaire et donc laisser aussi cette possibilité d'initiative des agents dans leur activité la plus en proximité avec les habitants et usagers des territoires. Pour conclure notre table ronde, pour vous, quels seraient vos prochains défis que vous souhaitez porter pour l'innovation publique, que ce soit au CNPT ou dans vos collectivités? Voilà, qu'est-ce qui pour vous est véritablement ce que vous désirez le plus dans les prochains mois, qu'est-ce qui vous concerne en ce moment? Qu'est-ce qui vous tient à cœur, Estelle?
Alors, en plus, notre rencontre est parfaite. J'ai envie de dire labo de transfo, labo d'innovation. Pour moi, une des ambitions, c'est de mettre de l'innovation dans la transfo et la transfo dans l'innovation. Enfin voilà, pour le coup, je trouve que les frontières sont très fines. Et une aussi des caractéristiques d'un lab, c'est justement de ne pas faire rentrer dans les cases. Donc, j'ai envie de dire, décloisonnons encore, continuons. Et dans nos pratiques, dans nos quotidiens, il faut aussi qu'on soit aussi finalement assez ouvert et dans la transversalité de nos pratiques. Voilà, c'est en tout cas une des volontés de ne pas forcément cataloguer les démarches. Et finalement, elles sont assez poreuses et voilà, c'est une des volontés à venir, en tout cas.
Transversalité.
Exactement.
Hein, transversalité. Gilles ?
Alors, j'en ai plusieurs hein, et j'aime beaucoup celui-ci. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure avec Estelle. Nous, on a été... 2022, c'est la première année du Lab à Marseille. Et donc, on a été assez nombriliste sur cette année-là, très centré sur comment démarrer les premiers pas du Lab et sur l'administration marseillaise. On a vraiment une teinte très... Lab de Transfo au sein d'une DGA qui s'appelle Transformer nos pratiques, donc il n'y a pas d'équivoque. Et là, on a vraiment, en 2023, cette envie de se connecter de plus en plus et de mieux en mieux, des connexions très qualitatives avec ceux qui sont sur les mêmes sujets que nous. Après, moi, j'ai un niveau mais qui est très personnel. Je suis très sensible à la chute régulière de la participation aux différentes élections. Voilà. Et je pense et je suis convaincu que dans les municipalités, au premier échelon, celui qui est le plus proche des habitants et finalement des citoyens, on a un rôle clé à jouer pour faire comprendre aux habitants l'intérêt de la politique, du politique plus que de la politique. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est plus le politique que la politique. Et donc de leur de revaloriser, de redonner ces lettres de noblesse aux politiques, au travers de politiques publiques de qualité pertinentes pour les gens qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, moi j'ai un vrai sujet, une vraie sensibilité très très forte là-dessus, et je suis convaincu qu'on a un rôle à jouer, agent de l'administration publique territoriale, un vrai rôle de premier niveau, là on est vraiment au front, à jouer là-dessus. Donc voilà, c'est un engagement qui est plus perso. Ouais, je pense que le Lab, c'est un bel objet pour pouvoir faire avancer ces sujets-là aussi.
Des valeurs fortes, en tous les cas, pour faire en sorte que les citoyens soient le plus nombreux impliqués, engagés dans la vie des territoires et notamment associés à tout ce qui relève effectivement de la décision publique. Je pense que ce sont des champs qui sont vraiment largement à développer. Ophélie, quel serait votre prochain défi pour vous ? Non pas dans cette proximité avec les territoires usagers habitants, mais au regard de votre activité au sein du CNFPT.
Ah, quelques vœux surtout pour cette année 2023. Ben si, en fait, l'altérité. Tu vois, Bernard, la question de l'altérité, la prise en compte de l'autre. Alors, l'autre, ça peut être nos usagers dans le cadre du CNFPT, hein, des usagers de l'offre de formation. Par quoi ils sont concernés finalement au quotidien pour qu'on puisse en fait adapter, ajuster et être au cœur en fait de leurs préoccupations quand on parle de formation. Donc ça me semble important. L'altérité vis-à-vis aussi des innovateurs dans les territoires, par quoi aussi ils sont concernés, de quoi ont-ils besoin et comment éventuellement on pourrait les aider, les accompagner et être aussi avec eux en co-construction de nouvelles typologies aussi de formation et d'être dans leur pouvoir d'agir aussi. Ça me semble important comme défi. Un autre défi qui est pour moi l'ère de l'apprenance, c'est-à-dire engager le Centre national de la fonction publique dans l'ère de l'apprenance. L'apprenance, c'est quoi ? C'est la prise en compte de son autodétermination, c'est la prise en compte d'une trajectoire, d'un chemin que à un moment donné, l'usager, en tout cas l'apprenant, souhaite mettre effectivement en place, c'est-à-dire on est né pour apprendre et donc on a cet apprentissage comme cheminement, comme trajectoire. Ça signifie à travers ça de réfléchir un petit peu différemment nos formations, aussi bien sur le fond et effectivement sur la forme. Et puis enfin, bon, j'aurais envie de dire un troisième défi, encore une fois dans un monde en transition, c'est de développer la vision systémique des organisations. Et que nous, CNFPT, on puisse à un moment donné impulser cette vision systémique, cette vision macro et micro, tellement essentielle justement dans les récits des nouveaux territoires.
Merci à vous, Ophélie. On voit bien que l'innovation a de l'avenir et ne manque pas de défis prochains. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup pour les échanges que nous venons d'avoir ensemble et puis sur toute la journée que nous avons passée ensemble. À partir de vos récits qui étaient très stimulants et qui ont permis justement de pouvoir faire en sorte que l'innovation et le vivant soient au cœur véritablement de nos préoccupations et de notre activité. Merci vraiment infiniment à vous tous et à vous toutes.
Merci.
Merci.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.